Le petit mot, la télématique, le signataire va apparaître, c'est quelqu'un que vous connaissez forcément, je pense. Enfin, on va voir d'ailleurs si vous le connaissez. Voilà, bon, je suis un petit peu trop. Voilà. Donc, Simon Nora, je ne pense pas que vous connaissiez, mais Alain Minck. Oui. Non, mais c'est bien d'être franc, là. Je pense que après tous ces cours, pour rentrer chez vous, vous allez dire, mais purée. Il y a une quantité de choses qu'il faut que. Mais c'est pas mal. Si ça peut vous rassurer, une petite parenthèse. Donc je m'offre des formations auprès de gens, dont je parle plutôt en milieu, des gens comme Vincent Lénard. Je me paye moi-même des formations auprès de ces gens. J'en ressors le soir, après une journée de séminaire, avec la tête remplie comme ça, en me disant, mais purée, mais le nombre de trucs que tu ne sais pas, mais mon pauvre, mais t'es nul ou quoi. Donc si ça peut vous rassurer, non, ben il me semble. C'est pas une maladie, quoi. Pour faire ça comme ça, c'est pas une maladie honteuse. C'est pas un truc. Non, c'est que quoi? C'est que face à un certain niveau d'exigence, on va dire, ben on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on ignore et qu'on n'a toujours pas progressé. C'est plutôt rassurant, je trouve. Même si c'est un peu fatigant à un certain moment, et peut-être même gonflant, je peux dire, encore un truc que je connais pas. Voilà. Bien, ben le Alain Minck, quand même, vous pourriez savoir, question de culture G, comme on dit dans certaines formations, c'est un de nos grands essayistes français. Il n'y a rien moins que d'essayer plusieurs présidents de la République, qui fait des bouquins qui sont des best-sellers, qui est interviewé sans arrêt sur des chaînes de radio, de télévision, ses chroniques et ses tribunes dans pas mal de magazines. Il est d'origine ENA, bien sûr, puisqu'il était major de l'ENA, et il a conseillé aussi beaucoup de très grandes entreprises dans des grosses opérations de fusion, acquisition, etc. Parfois de manière heureuse et parfois de manière malheureuse. Autrement dit, M. Minck, il s'est planté, mais ça fait partie des très grands essayistes. Un de ses thèmes les plus forts, sur lequel on réfléchit toujours, c'est lui qui, dans un bouquin d'il y a quelques années, avait opposé l'égalité à l'équité. Ça, c'est un joli thème. Vous connaissez forcément, au moins celui-là, je ne vais pas vous demander, vous connaissez par culture générale, égalité, équité, ben celui qui a lancé le débat public, qui a fait un bouquin là-dessus, et les tirages de Minck sont considérables, parce que quand Minck sort un bouquin, tous les magazines vous diffusent des bonnes pages, il est interviewé partout, c'est quelqu'un qui a une surface considérable dans l'intelligence française, pour le dire comme ça. Voilà, donc Alain Minck, à l'époque, le tout jeune Minck, la couverture de l'écran n'est pas bonne, il sortait de l'ENA, il était major de l'ENA, et dans ce rapport, ça avait été commandé à Simon Nora, c'était le patron de l'ENA, de l'époque, et Alain Minck, c'était donc l'étudiant number one. Quand est-ce que ce truc-là a été demandé? Alors vous ne l'avez pas, par le président de la République. Je peux vous dire que le président de la République, il s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, il venait d'être élu, et c'était en 1974. 1974, c'est-à-dire 40 ans. D'accord ? Hein ? Voilà la phrase que vous pouvez lire ici, qui est une phrase absolument incroyable. La télématique, à la différence d'électricité, ne véhiculera pas un courant inerte, mais de l'information, c'est-à-dire du pouvoir. En plus, écrit dans un rapport remis à un gouvernement de droite. Centre-droit, si vous voulez, mais enfin, bon, Giscard d'Estaing était à droite, c'est bien connu. Donc, dans un rapport remis à un gouvernement de droite, on balance une thèse classique, on verra peut-être en théorie appliquée sur Nathan, que pour beaucoup de théoriciens de l'information, c'est du pouvoir. Je n'ai pas encore abordé l'information comme ça, moi, parce que j'ai eu l'information au sens de stimulus. Hein. Après, on verra l'information quand elle est socialisée. L'information socialisée, bien sûr, c'est du pouvoir. Bon, donc, dans ce rapport très officiel qui démarrait la télématique française et tout le plan télématique français, je vous rappelle quand même qu'au plan électronique, la France est un des grands pays mondiaux. On a assez de sinistros sur des tas de trucs pour dire qu'en aviation, on est plutôt très bon, voire Airbus. Et en ce qui concerne l'électronique ou l'informatique, on a quand même de très 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 belles boîtes. Et à l'époque, on avait de très belles boîtes et c'est pourquoi on avait lancé ce plan télématique. Bon, ça montre bien que depuis 40 ans, les pouvoirs publics s'intéressent à ça, d'une part. Et deuxième thème, beaucoup plus important encore pour vous,
c'est de dire que depuis au moins 40 ans, eh bien, on considère que les NT vont être un moyen de faire évoluer la société et de résoudre une partie de ses problèmes, en particulier d'emploi et de divergence de niveau de vie entre les pays développés et les pays qui ne le sont pas. Depuis au moins 40 ans. Alors on va dire, ok, bon, très bien. Regardez cette belle citation à côté. Le président, alors là, on voit tout de suite des stats, bien sûr, et moi-même, croyons que la création de ce réseau de réseaux est un prérequis capital de l'accès au développement durable pour l'ensemble de la famille humaine. Qui a écrit ça? C'est puissante parole, Al Gore, à l'époque où il était vice-président de Clinton. C'est pas d'hier, c'est plus récent, mais ça a 25 ans. Hein, 93, non, 30 ans.
Non, ça fait 19 ans.
20 ans, bah c'est ça. Ouais. Pas 25, ça a 20 ans. Donc, non, c'est ça, 40 ans ici. Enfin, 74, 2013, 39 ans. Si vous voulez bien, on dit 40, pour vous c'est plus simple. Hein. 40 ans, 20 ans. Continuité de la relation des dirigeants des pays développés. J'ai pris la France d'abord. J'aurais pu prendre les autres présidents de la République, je ne les ai pas pris parce que je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire des NT, on n'en a pas le temps, ce n'est pas lieu ici. Hein, je vous ai pris des déclarations structurantes, vous vous doutez qu'après Giscard d'Estaing, Mitterrand a refait la même chose en 81 et en 88. La preuve, c'est qu'entre 80 et 88, moi j'ai travaillé pour le pouvoir de l'époque, que Chirac a fait la même chose quand il a été élu, et que Sarkozy a fait la même chose, et que Hollande, le président actuel, nous a fait un discours sur la France et les nouvelles technologies. Ça fait 40 ans qu'on le dit. Et là, 20 ans. Et c'était le moment où l'Internet, on va dire, est passé de son statut privé, militaire, à un statut public. Puisque l'Internet ouvert au public, ça date précisément de ces années-là. L'Internet en France, moi je l'ai eu chez moi, je peux vous dire, en 94. À Noël 94, j'avais Internet chez moi. Avec un petit modem qui n'était pas très rapide. Hein. Mais enfin, c'était marrant quand même. Bon, alors, quelques effets des NT. Attention, là, je vous résume sur cette diapo. Vous allez comprendre la logique, la structuration, hein, dans quelques instants. Ce que de brillants analystes nous ont annoncé quant à ce que les nouvelles technologies d'information et de communication pouvaient apporter. Alors, premier effet, gain de productivité. Bon, gain de productivité des nouvelles technologies, faut-il qu'on défende ce point de vue-là très longtemps? Non. C'est évident qu'il y a des gains de productivité énormes. On l'a surtout vu dans le secteur industriel, j'y reviendrai tout à l'heure. On l'a vu dans le secteur agricole. Les nouvelles technologies agricoles, c'est un monde aussi qui innove beaucoup. Je voudrais juste aussi, dans cette lieu, élargir votre point de vue. On a tendance à parler des nouvelles technos au travers des bidules qu'on a, nos ordinateurs. Et nous serions dans la modernité. Et les agriculteurs, non. C'est totalement faux. Les agriculteurs sont aussi dans l'innovation. Oui, c'est pour vous montrer qu'on n'a pas le privilège de l'innovation. Et quand on a un peu de curiosité pour d'autres mondes que le sien, on se rend compte que l'innovation est présente partout, aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie, peut-être plus que dans les services d'ailleurs. Et là où elle est le moins présente, ben, c'est pourquoi j'ai commencé par mon article tout à l'heure. Vous voyez, clin d'œil. Parce que nous, en enseignement supérieur, dans un monde d'innovation permanente, on est à la traîne comme c'est pas permis. Est-ce que nous, il y a un gain de productivité avec les nouvelles technos? Depuis qu'on a mis des ordinateurs, on va le reprendre tout à l'heure, ça, dans une deuxième colonne. Mais vous verrez que la réponse, c'est bien sûr que non. Mais enfin, gain de productivité, en principe, c'est oui. Nouveau type de croissance, ça, on l'avait chez Alain Minc, 74, chez Al Gore, et tout un tas d'autres spécialistes, puisque Minc n'est pas un spécialiste, et Gore non plus, et les politiciens, il est conseiller. Bon. Mais les autres qui se sont attaqués à la question... On dit qu'on aurait un nouveau type de croissance, c'est-à-dire qu'on aurait une croissance plus rapide et surtout mieux répartie. Plus uniformément répartie, pour le dire de cette façon-là, on aurait un nouveau rapport à la croissance, avec des cycles beaucoup plus courts. L'idée, c'est que les NT sont des boosters, des accélérateurs de la croissance. Croissance au sens économique, hein, bien sûr. Ce sont des accélérateurs de la croissance. Si on regarde pour les pays émergents, je crois que la cause est entendue. Peut-être que nous, pays développés, très développés, nous en payons un prix qui n'est pas négligeable, ça c'est vrai. Mais vu de leur point de vue à eux, la croissance, ils la connaissent depuis des années, et comme on dit, ils ont des croissances à deux chiffres. Et c'est essentiellement soutenu par de nouvelles technologies.
Y compris dans le secteur de la mobilité, par exemple.
Bon, nouveaux emplois, thématique des nouveaux emplois. Il est vrai que les nouvelles technologies ont créé des nouveaux emplois. Les web designers, les web agencies, et tout ce que vous voulez, bah oui, tout ce qui tourne autour du multimédia, tout ce qui tourne autour de du contrôle et de la certification des systèmes informatiques, tout ça, ça fait plein d'emplois. Et si je généralise un petit peu, je dirais que la communication fait un petit peu partie du même mouvement, donc création d'emplois.
Vous êtes convaincu ou pas?
Ouais. Bien sûr, création d'emplois. D'emplois parfois radicalement nouveaux. Bon, je vous rappelle que j'ai fait un bouquin sur les métiers de l'informatique avant d'en faire un sur les métiers de la communication. Donc création de nouveaux emplois, c'est absolument irréfutable. Décentralisation. Ça, pour un pays comme la France, c'est particulièrement sensible. C'est moins sensible en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, enfin dans plein de pays qui sont beaucoup plus décentralisés que nous. Mais dans notre vieux pays, bien centralisé, bien monarchique, où tout remonte à Paris, la décentralisation que permettent les nouvelles technos, l'Internet et les nouvelles technos, est évidente. À la fois dans les aspects les plus ludiques, que vous pratiquez bien, chat et visioconférence, mais aussi travail partagé, collecticiel, intelligence collective, etc., etc. Il y a une décentralisation qui est beaucoup plus poussée grâce à ces nouvelles technos, par les transferts massifs d'informations, par les transferts de fichiers, etc. Bon, je ne vais peut-être pas trop le dire. Autonomie. Autonomie au sens où si on veut travailler un dossier, on n'est pas forcément obligé de le travailler aux heures de bureau, déjà. On peut aller chercher soi-même de l'information. On peut partir de cette information, la mettre en forme et la faire parvenir à des pairs, et cette autonomie va être renforcée par des décisions de pairs. C'est l'autonomie de groupe et l'autonomie d'individu, bien sûr. Par petites unités autonomes ou par individu.
Bon, je crois que là aussi on est d'accord.
Très bien. Épanouissement.
Allez donc voir les gens qui bossent sur des programmes excitants. Alors, si vous pensez aux secrétaires de l'UJM devant leurs ordinateurs, effectivement, l'épanouissement sur des programmes mal foutus qui ne fonctionnent jamais, là, peut-être, vous vous doutez que si j'occupe la colonne gauche de cette diapo, peut-être même que la maquette vous fait dire que ça va se remplir à droite. Et peut-être même que ce qui va arriver à droite, ça sera le côté négatif, après avoir vu le côté positif. Donc si vous êtes impatient, en disant, mais il n'y a pas des aspects positifs quand même, il n'y a pas que ça, il faut que ça, bah ok, très bien, on va voir. Pour l'instant, je le dis, à présent, je suis dans les aspects positifs, bien sûr. Et dans les aspects positifs, bah, épanouissement, oui, bien sûr. Dites, les gens qui font du montage vidéo, qui créent des jeux, qui crée des sites et toutes ces activités-là, c'est pas excitant pour eux. C'est tellement excitant qu'ils ne veulent pas s'arrêter le soir, qu'ils bossent la nuit, ces gens-là. Vous savez bien, non? Si vous connaissez des personnes qui bossent, qui font la création de quelque chose sur Internet, ils ne s'arrêtent pas, non? Quand vous-même, vous avez un programme un petit peu excitant, bah, vous pouvez, évidemment, un programme excitant, est-ce que Word est excitant? Non, pas sûr. Moi, j'ai encore du plaisir avec Word et son équivalent Page chez Mac. J'ai encore du plaisir quand je fais un beau document Avec Word, c'est moins pratique, mais on va dire le page juste. Mais bon, quand je fais un beau document, bien propre, que j'ai le correcteur orthographique, que j'ai l'Internet sous la main pour vérifier quelque chose, franchement, quand j'ai plein d'articles, par exemple, ça me fait très plaisir. Alors, c'est vrai que Word, c'est limite. Mais si vous voulez que je vous dise, moi, où je prends un plaisir fou, je vous l'ai dit, je crois, c'est de dicter à Siri n'importe quel texte. Ça reste un bonheur. J'ai déjà du plaisir à me dire que ce soir chez moi, j'aurai sûrement quelques mails auxquels il faut répondre. Mais bon, ou tout bien, je peux le faire ici, mais comme le réseau est pourri, pas pour ça. Voilà. Donc j'ai déjà du plaisir. Peut-être pas vous. Il y a peut-être des logiciels avec lesquels vous avez au moins du plaisir.
Bon, épanouissement des lieux de travail, en tout cas pour certains d'entre eux. Bon, on continue sur les aspects positifs qui ont été analysés par des tas de gens. Le changement social. L'idée, c'est que s'il y a des nouveaux emplois, décentralisation, nouveaux types de croissance, etc., il y aura du changement social avec plus, c'est pratiquement dit là, hein, plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de liberté créatrice, plein de choses positives, quoi. On aura aussi des nouveaux enjeux de souveraineté. Ça, Mink l'a très bien vu très tôt. Il a été dans ceux qui l'ont vu peut-être le plus tôt. Et même si je ne suis pas toujours, et même pas souvent d'accord avec ce que raconte M. il a quand même des clairvoyances. Dans l'autre grand essayiste français, avec lequel je suis plus en accord, vous connaissez peut-être lui, j'espère, Attali. Ça vous dit quelque chose, Jacques Attali? Quand même. Bon, d'accord. Eh bien, très bien. Disons que j'ai beaucoup plus d'atomes crochus avec Jacques Attali qu'avec Alain Minc. Mais ce sont des gens qui ont une clairvoyance et dont il faut lire un peu les bouquins quand même. Hein. Bon, et donc, les nouveaux enjeux de souveraineté, Mink les a soulignés dès le départ en disant qu'avec l'Internet, par définition même de l'Internet, eh bien, des tas de questions de souveraineté seraient déplacées. Vous voyez, le plus parlant pour vous, c'est la question des droits d'auteur. On peut bien légiférer en France sur la question des droits d'auteur de ce qu'on veut, forcément, il y aura des sites étrangers par lesquels vous allez passer pour aller récupérer ce que vous voulez. Donc la souveraineté française en matière de droits d'auteur, elle va être totalement perturbée, pour ne pas dire balayée, par le fait même que le réseau est international. Et tout un tas d'autres choses que ça. Vous voyez, donc la souveraineté, elle est battue en brèche sur beaucoup, beaucoup de thèmes, par le seul fait que ce soit international, instantané, etc. Pour qui pratique l'anglais quand même. Hein. L'intelligence collective, c'est un thème qui émergeait très très tôt en disant que grâce à l'Internet, on va pouvoir dialoguer, créer de la connaissance nouvelle, créer de la valeur, bref, être beaucoup plus efficient, efficace et pertinent au travail. Ça correspondait à la phrase d'un philosophe français, obscur aujourd'hui, mais que j'aime bien citer, Teilhard de Chardin, que certains citent, comme d'habitude, sans l'avoir lu, et qui disait que rien dans l'univers, la phrase c'est « rien dans l'univers ne saurait résister à l'ardeur convergente d'intelligence groupée et organisée. » Rien dans l'univers ne saurait résister à l'intelligence, hein, c'est très beau comme phrase, à l'ardeur convergente d'intelligence groupée et organisée. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Un auteur que j'ai cité dans mon panorama, Pierre Lévy, lui le connaît et en parle dans son bouquin sur l'intelligence collective. Bon, voilà donc une série d'effets des nouvelles techno qui sont des effets, tous évidemment positifs. Et d'ailleurs, oui, il avait appelé ça, Teilhard de Chardin, la noosphère. C'est pas pour rien qu'un opérateur à Paris s'est appelé Noos. La nouvelle sphère de l'intelligence. Le fait qu'on va créer ensemble des choses. Bon. Ok. On passe sur le côté droit maintenant. Vous doutez bien que, forcément. Et vous avez patienté gentiment, sans me dire, mais il n'y a pas les aspects négatifs. Évidemment qu'ils vont le dire. Les aspects négatifs, qui dit gain de productivité dit forcément accroissement du chômage, parce qu'on se retrouve avec des gens en surnombre. Et c'est ça le dilemme des NT. Le dilemme des NT, c'est que ça va supprimer beaucoup d'emplois non qualifiés ou peu qualifiés, tout en créant simultanément quelques emplois qualifiés ou très qualifiés.
Et vous sentez qu'il y a comme un problème d'équilibre. Parce que supprimer les emplois non qualifiés, est-ce que ça nous fait pleurer? Pas grave, non, quand même. C'est plutôt bien qu'on supprime les emplois pas qualifiés. En particulier si on fait faire par des machines. Non? On ne va pas pleurer sur les emplois non qualifiés que la machine a supprimés. Quand même. Bon, ok, là-dessus, c'est très bien. Le petit problème, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup d'emplois non qualifiés qui dégagent. Et à la place, on crée des emplois, et c'est vrai, on en crée. Super qualifiés, super payés, valorisants et tout. Mais c'est pas un point. Le rêve serait qu'on prenne un emploi non qualifié et que par un coup de baguette magique, on le transforme en un emploi qualifié. Ça, ça serait la merveille des merveilles. Bien sûr, comme ça que ça marche. Et le ratio entre les emplois supprimés et les emplois créés, il est terrible. Il est terrible. Alors, selon les économistes, selon les sources, etc., comptez qu'il est entre 5 et 20. Entre 5 et 20, ça dépend des secteurs. Mais il est au moins de 5. Donc ça supprime au minimum 5 emplois pour 1. Et ça peut aller jusqu'à 20 emplois qui dégagent pour 1. C'est bien ça le problème. Alors après, ça pose toute une autre série de questions. Des questions qui peuvent être à la fois philosophiques et politiques. C'est-à-dire, est-ce que, quand je parle d'emploi, c'est abstrait l'emploi, hein? Les emplois, c'est des personnes. Bon. Est-ce que je peux transformer une personne pas qualifiée en une personne qualifiée dont la société a besoin? Et là, ça a justifié en particulier la position française sur laquelle on revient en ce moment. C'est-à-dire, il faut former, amener, rappelez-vous, les 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, vous êtes dedans. Vous avez passé votre bac, vous êtes combien à réussir? 70%, 80%. Hein, c'est ça? À peu près. Bon. Donc, les politiques, et alors là, toute tendance confondue, hein, gauche, droite, même combat, ont voulu augmenter le niveau. En disant, ok, on a des niveaux très bas, on va augmenter le niveau. Ben oui, mais le problème, c'est que les technos, elles continuent d'évoluer, et le niveau n'est pas suffisant. Donc, le niveau qu'elles ont formé n'est jamais suffisant, d'une part. Et de l'autre, le plus dramatique, c'est qu'on forme des gens en surnombre, avec des diplômes trop généraux d'ailleurs, après un problème d'organisation des études, on ne sait pas quoi faire. Le nombre de jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi, c'est dramatique. Je ne parle même pas de ceux qui sont largués par système avant. C'est un autre aspect du problème.
Bon, donc accroissement du chômage. Ah, c'est un peu moins bien. Rigidité sociale, pour nouveau type de croissance, rigidité sociale, c'est...
Il y a eu plein de textes là-dessus, grosso modo, l'informatique et les NT et l'Internet, c'est libre. C'est le contrôle social permanent. C'est l'habitude de raisonner de façon schématique, de façon abstraite, et de dire c'est pas moi, c'est la machine. Et ça peut, à certains moments, déclencher des effets dramatiques où il n'y a plus de souplesse, il n'y a plus de jeu social. Ça a été beaucoup dénoncé par les syndicats, ça. Ça va de pair, je l'ai un petit peu annoncé, contrôle social. Parce que quand on parle d'autonomie, c'est génial. Mais si, sur votre ordi, vous expliquez, si on veut le nombre de... Par exemple, il vous faut combien de minutes pour répondre à un mail simple? On peut le savoir. C'est embêtant, en fait. Hein? On peut le savoir. On peut tout piéger, tout moucharder. Et dans ce cas-là, ce qui était source de liberté, d'épanouissement, devient contrôle, suggestion permanente, devient quelque chose de totalitaire. C'est un contrôle à la Big Brother permanent. On sait exactement ce que vous faites, pendant combien de temps. On peut savoir, hein. D'ailleurs, je crois même qu'il y a des commandes d'horreur qui permettent de savoir le temps que vous avez passé. C'est un peu, il faut les fouiller dans le menu, mais vous avez ça. Ça vous amuse de savoir le temps que vous avez passé sur un texte. Le ratio nombre de caractères que vous avez tapé par rapport au nombre de caractères final du texte. Si vous sortez ces statistiques, ça va vous flanquer la sinistrose, alors laissez-les creuser. Mais ouais, on peut savoir. Donc il y a quand même, effectivement, le contrôle social permanent. Et là, on revient peut-être sur la vieille question de la neutralité de la technique, entre parenthèses. Parce que la technique, on peut dire d'un côté, elle est vers la liberté, vers l'autonomie, vers la créativité, valeur positive, mais aussi, elle est du côté du contrôle, de la rigidité,
valeur négative. Bon, on y reviendra peut-être sur cet aspect-là. Il y a aussi le côté banalisation des activités. Tout devient simple et banal. Il n'y a plus de valeur ajoutée. Il est vrai que pour les emplois de bureau, une secrétaire qui autrefois se débrouillait bien pour prendre des notes rapidement, maintenant, si elle enregistre ce qu'on lui dit et qu'elle a son traitement de texte, on ne voit plus les différences. Donc ça va banaliser des savoir-faire professionnels. Et ça va parfois les faire disparaître aussi d'ailleurs. C'est peut-être moins grave, mais je ne fais pas de jugement entre ces différentes, entre ces différentes critiques ou accusations. Répétitivité des tâches. Oh là là, oui. L'informatique, qui est en principe présente pour nous libérer, continue à nous faire perdre un temps considérable. Et ça, on sont responsables, à la fois ceux qui pilotent tous ces systèmes, on va dire les décideurs, dirigeants, mais aussi les informaticiens eux-mêmes, qui nous créent de mauvais systèmes. Un exemple. Je ne sais pas si vous n'êtes pas donné. Aujourd'hui, quand vous laissez votre adresse dans une boutique et qu'on vous demande souvent votre code postal, et sur l'écran de l'opérateur apparaît la commune. Bon. Parfois, on vous demande où est-ce que vous habitez, il suffit de commencer à taper le nom de la commune pour qu'automatiquement apparaisse une liste des communes avoisinantes. Ça s'appelle comment, ça d'ailleurs ? Un peu de vocabulaire technique, saisie préemptive. Hein. Le système est préemptif, il vous scrute sans arrêt. Dès qu'il a reconnu assez de lettres pour, ça peut marcher aussi pour anglo-saxon, il les repère. Très bien. Aujourd'hui, ça fonctionne. Mais il y a encore quelques années, vous n'aviez pratiquement nulle part cette saisie préemptive. Le Figaro, en 1984, en présence de Jobs lui-même et d'un ingénieur français qui avait créé sa boîte, j'ai fait modifier en temps réel, on m'a modifié en temps réel un logiciel pour faire la saisie préemptive. 84. Ça va vachement vite. Hein. Vous vous rendez compte ? Et aujourd'hui encore, il y a des lieux dans lesquels vous devez retaper à chaque fois la talaudière, les trains, Saint-Genève. Voilà. Et le GPS, ces imbéciles de GPS, dont certains, il faut leur taper Saint, S-A-I-N-T, et pas S-T, parce que si vous leur tapez S-A-I-N-T, ils comprennent pas comme S-T. Et vous êtes perdu, en particulier quand vous voulez vous chercher un endroit, c'est vachement pratique. D'ailleurs, c'est certains qui arrêtent la voiture à ce moment-là et qui se payent le fossé ou le platane. Bon, très bien. On a aussi la dépersonnalisation des fonctions. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas moi, c'est l'ordinateur, c'est le programme. Regardez la manière dont nos pauvres secrétaires sont totalement dépossédés. L'emploi du temps, c'est un tel sac de nœuds, ce logiciel à la manque avec lequel Madame Benchonan est obligé de saisir les emplois du temps, que rien que si je lui demande de modifier stratégie par rapport au gouvernement, elle le fera bien sûr, parce qu'elle est gentille. Mais voilà quoi. Ça fait partie des choses qu'il faut bien dire, ça dépersonnalise. Déqualification des emplois. Hélas, il y a des exemples. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus. La PAO. La PAO, ça a d'abord été une création d'emplois. Bien payée. Je le sais, je vous l'ai dit, j'ai créé une association à Paris pour former des gens à ça. Super payé, formidable. Et sur un cycle de 20-25 ans, on a vu que la PAO, qui n'existait pas, qui était un nouveau métier, emploi, etc., est devenu un emploi de moins en moins qualifié, de plus en plus déqualifié, et qu'aujourd'hui, si vous êtes seulement technicien PAO, vous descendez au niveau de rémunération très faible. Donc l'informatique a même fait le cycle de déqualifier les emplois qu'elle a créés. Il faut le faire, non ? Ok, il y en a qu'elle a supprimé, comme les emplois de pupitreurs. Sur les ordinateurs, il n'y a plus de pupitreurs. Donc là, c'est pire que la déqualification. Création d'une technoprêtrise. Ceux qui savent. Ça, c'est du langage de Jacques Ellul. Privation de liberté. Le système contrôlant tout peut vous priver de toute liberté. Ça va peut-être un peu loin. Pardon. Voilà. Bon.
Alors, une liste des points positifs à gauche, des points négatifs à droite. Que conclure ? Déjà, c'est à vous. Zut. C'est à vous par rapport à cette liste-là, de vous faire votre propre idée. Hein, et peut-être de le séparer en fonction des secteurs. Peut-être un petit peu. Dans le secteur industriel, on est plutôt du côté du positif. Dans le secteur tertiaire, emploi de bureau, on est plutôt du côté du négatif. Oui, déjà, on ne peut pas faire une analyse complète pour dire bon. Et puis après, il faut voir pour la France, c'est pas la même chose que pour d'autres pays comme l'Allemagne.
Ou d'autres pays émergents, par exemple. Vous voyez, donc, ceux qui voudraient répondre de manière totalement générale, oui, il y a car, enfin, c'est à peu près. C'est aussi absurde. Ça dépend des secteurs économiques, ça dépend des pays, ça dépend aussi un peu des moments. Puisque l'évolution des nouvelles techno, elle est certes rapide, mais il y a quand même des. Plus fort que d'autres. Et ces moments plus forts que d'autres vont renforcer tel ou tel de ces aspects.
Bon, est-ce que vous voyez d'autres aspects, négatifs ou positifs ? Hein, j'essaie de balayer très large. Ceci représente des dizaines de contributions, de témoignages. Je vous dirais d'ailleurs qu'en termes de nombre, là, il y a beaucoup de monde. C'est très chargé. Là, il y a peu de monde. En France, hein, chez nous, nous avons quand même globalement une attitude assez technophobe. Assez technophobe. Pour plein de raisons qu'on n'a peut-être pas le temps d'analyser ici, que vous pouvez retrouver chez Jacques Ellul, dont j'ai déjà cité plusieurs fois l'œuvre, mais nous sommes plutôt technophobes. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Proches, en Europe, dans lesquels on est au contraire plutôt technophile. Nous, on peut être technophile en matière de conso, hein, mais en matière de relation des NT au travail, on est plutôt technophobe, un peu rétif au changement, un peu craintif, ce qui fait que cette partie-là est vraiment très représentée, avec des dizaines, des centaines de textes, des milliers sûrement, que je ne connais pas, tandis que celle-ci, il y a beaucoup moins de monde. Bon, alors, est-ce qu'on peut ajouter encore quelque chose ? Ouais, on peut peut-être ajouter encore deux choses. La première, c'est que l'informatique, les NT, sont tellement en développement rapide que la dernière tendance, c'est la relation aux emplois. Je vous rassure, ce que je vous dis, c'est une micro-tendance.
Mais il faut que je vous la donne quand même, cette micro-tendance. J'ai dit tout à l'heure que les NT suppriment beaucoup d'emplois peu qualifiés et créent en regard quelques emplois qualifiés. D'accord ? Le schéma, il est simple. Bon, on l'a tout le temps vérifié. Est-ce pour autant le seul qui s'applique ? Non. Les nouvelles techno ont aussi la capacité, je vais dire comme ça, de supprimer aussi des emplois qualifiés. Et là, ça devient grave. Parce qu'elles suppriment les emplois qualifiés. En regard, elles peuvent créer, on va dire, quelques emplois très hautement qualifiés. Mais le schéma du non qualifié qualifié peut se répéter en pire entre qualifié et très qualifié. Et les ratios sont bien pires. Alors, quels exemples a-t-on pour ça ? Il y en a un pour retard d'enfance. Et là, on va retomber sur ce qu'on a déjà dit. Si je prends le secteur agricole, les gains de productivité ont été énormes sur les 50 dernières années, chacun le sait. Je dis, le nombre de paysans qu'on a en France aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils produisent, c'est donc qu'ils sont beaucoup plus productifs qu'autrefois. Bien. Dans le secteur industriel, secondaire, à peu près pareil. Hein ? Bon, il y a des tas de ratios que je ne peux pas vous donner parce qu'on n'en finirait pas, mais. On a un gain de productivité énorme aussi dans le secteur industriel parce que le processus a été accompli jusqu'au bout. Dans le secteur tertiaire,
qu'est-ce qu'on a accompli le processus? Évidemment non. On a freiné le processus. Dans le secteur tertiaire, les programmes informatiques sont capables de remplacer une bonne partie des employés du tertiaire. Regardez comment les banques en ligne fonctionnent. Ce n'est pas déjà la préfiguration de ce qui peut arriver. Pour faire fonctionner une banque en ligne, il faut des bons ordinateurs, des très bons programmeurs, quelques personnes qui répondent au téléphone, et puis terminé, ciao, bonsoir. Par rapport aux cohortes qu'il y a dans le secteur bancaire, et l'assurance alors? L'assurance, au fond, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est plus utile, l'assurance? Ça, c'est les experts. C'est ceux qui vont dire, mais là, c'est pas vraiment des gens d'assurance, c'est ceux qui vont chiffrer les dégâts pour dire, vous avez tel dégât, ça fait tant, terminé. Bon, vous vous rendez compte? Si on applique ce que je vous ai dit au secteur tertiaire, on aura des millions de chômeurs en plus. Vous sentez bien qu'on freine. Tout le monde freine, hein, même les entreprises. C'est parce qu'elles savent que c'est tellement explosif que ce serait insupportable. Alors, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on prend plus de précautions pour le secteur tertiaire qu'on en a prises pour le secteur secondaire, où on a fait des cohortes de chômeurs, et par raison aussi d'hydrologistes, hein, quand on leur a dit de toute façon tu ne sers plus à rien parce que maintenant c'est les machines qui vont faire le boulot, à ta place, le secteur automobile. Hein, les machines-outils, les robots. Ça a supprimé des ouvriers qualifiés, ça n'a pas supprimé les manœuvres. Hein. Ça a supprimé des emplois qualifiés. Donc c'est bien ce que je suis en train de vous dire, l'automobile, ça a supprimé des emplois qualifiés. Alors c'est vrai que ceux qui restent, ils sont très très bien. Mais les autres, bon, ce qu'on a fait pour le primaire, pour le secondaire, on n'a pas fait pour le tertiaire. Je voulais quand même vous signaler ça pour vous dire, politiquement, qu'est-ce que nos dirigeants décideront? Ben j'en sais rien. Ils en sont conscients, hein. Bon, il y a quelques imbéciles qui ne le savent pas, parce que, enfin, à un niveau de responsabilité politique important, ils le savent, bien sûr. Bien sûr. Mais ils n'ont peut-être pas envie de nous en parler. Tellement le sujet est explosif. Alors, est-ce qu'on se fait peur pour nous communicants? Est-ce qu'on peut vous remplacer, vous, futur chargé de com, donc en premier temps, chargé de com, on l'a dit, par une machine?
Je pense pas.
Ah, c'est une question, bah mince, elle a raconté. Moi, je suis remplacé par une machine, donc qu'est-ce que tu me racontes là? Enfin, je suis remplaçable. Hein? Non, je pense qu'effectivement, tranquille, un moment. Il y a des assistances qui pourraient être créées, et ça serait bien intéressant. Pour mieux gérer le budget, pour mieux gérer le cahier des charges, par exemple. On pourrait rêver de systèmes informatiques qui nous rendrait plus rapide, plus efficace, mais pas pour autant de machines qui nous remplaceraient. Donc, en communication, bien qu'étant dans le tertiaire, et on fait partie plutôt du tertiaire supérieur de communication. Donc, étant dans ce tertiaire-là, on est à peu près tranquille. Tout au moins, jusqu'à ce qu'on ait des systèmes d'intelligence artificielle ultra perfectionnés, qui là, pour le coup, pourraient vraiment mener des campagnes de communication tout seul. D'accord ? Vous voyez un exemple de métier hyper qualifié dans lequel le point de l'informatique devient effrayant. Bon, on en parle tout le temps. L'univers de la finance. Qui décide des achats de bons, d'actions, maintenant? Plus souvent, c'est plus les êtres humains. C'est les programmes d'ordinateur. C'est les programmes qui se bagarrent. C'est les programmes qui donnent des ordres d'achat et de vente d'actions. Alors, on a parfois des leviers sur les programmes pour les arrêter à temps. C'est un petit peu comme la guerre nucléaire, quoi. Mais ce sont les programmes qui réagissent sur des durées qui n'ont rien à voir avec notre perception, puisqu'ils réagissent sur des temps qui sont toujours inférieurs à la seconde. Inférieurs à la seconde. Quel est le trader, le meilleur du monde, qui serait capable de réagir en une seconde en intégrant tous les paramètres possibles? C'est impossible. Donc, voilà un exemple de job très hautement qualifié. Je ne parle pas de la valeur morale du trader. Ça, c'est autre chose. Chacun a son jugement là-dessus. C'est pas mon problème. On ne peut pas dire que ces gens-là sont des imbéciles. Bon, on peut peut-être dire que moralement, d'accord, je veux bien. Mais ce n'est pas des imbéciles, ça, c'est sûr. Donc, voilà les gens qui ne sont pas des imbéciles. Et pour une partie d'entre eux, ils se font remplacer par des programmes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit pour les remplacer? On dit que les programmes, ils n'auront pas les affects des êtres humains. Ils sont beaucoup plus dans la rationalité. Si j'étais trader, je m'inquiéterais. Bon,
c'est une inquiétude relative parce que ils ont mis assez d'argent de côté et je n'ai pas trop de soucis pour leur avenir. Je crois vraiment pas. Mais si je vous donne cet exemple parce que c'est facile de cogner sur les salaires, hein, ce n'est pas des gens qu'on connaît beaucoup, mais c'est pour dire que les NT sont aussi en capacité d'aller menacer des emplois hyper qualifiés. C'est ça que je veux faire passer. D'accord ? Et allez, encore un exemple, parce qu'on est en mémoire ici, je crois que je vous l'ai dit. Les chirurgiens. Vous en avez parlé, vous rappelez ? J'ai des mémoires là-dessus. C'est un exemple plus sympathique, a priori, que les traders. Hein. Les traders, on a envie de cogner dessus, les chirurgiens, bon. Bien sûr. Des dispositifs d'assistance robotisés qui peuvent faire des opérations à la place des chirurgiens, carrément. On voit dans les films, hein, ça. Mais ce qu'on voit dans certains films de science-fiction, ça... Oui. Dans le dernier, oui.
Dans le premier.
Un petit peu, mais dans le dernier, c'est très impressionnant. Bon, voilà, alors ça, c'est l'ASF. Hein. C'est l'ASF, mais voilà.
Bon, très bien, oui c'est vrai, dans Alien on a ça. Ah oui, alors j'avais dit deux choses, pardon, je peux pas ne pas le dire. Il y a eu quand même un autre essayiste français, alors j'ai cité Minc, qui est toujours vivant à l'heure actuelle, qui écrit toujours des bouquins, vous l'avez sur le site des Échos, il y a une interview de lui là, qui est passée la semaine dernière, mais il est partout, bon. J'ai cité Attali, qui est notre peut-être plus grand essayiste français. Hein. Chaque fois qu'Attali sort un bouquin, c'est les gros tirages. Toutes les télés se précipitent, il est partout dans l'interview, il a pris des tas de sujets. Bon. Très bien. Il y en avait un autrefois qui remplissait cette fonction, qui était le patron de l'Express, le créateur, patron, mais surtout le créateur de l'Express. L'Express étant le premier magazine français, news magazine français. Qu'il avait rapporté des États-Unis où il avait été faire un stage de pilote. Il s'appelait Jean-Jacques Savant-Chabert. Il y a toujours des Savant-Chabert d'ailleurs. Il y en a peut-être un que vous connaissez, qui est mort il n'y a pas longtemps, c'était son fils, David Savant-Chabert. Alors vous connaissez les bouquins qui ont été des best-sellers aussi, c'est ça qu'il appelle Guérir. Vous n'avez rien ? Non ? Un bouquin pour essayer de dire que l'organisme a les capacités de se soigner lui-même. Succès mondial. Oui, un petit peu plus turgé comme ça. Comment ? Oui, mais sauf que là, il en donne des bases scientifiques. Ah non, c'est pas ça. Oui, d'accord, ça c'est le maintien à l'équilibre de l'extasie. Non, ce que dit Florent Chabert, c'est vraiment tout autre chose. Mais bon, bref. Donc, je vous disais David Savant-Chabert, parce que c'est un Savant-Chabert qui est mort il y a deux ans, je crois, même pas, qui a eu une très belle carrière littéraire et tout, et qui était un des fils de celui dont je vous parle. Alors, Jean-Jacques Savant-Chabert, son père, avant il y avait grand-père, Émile, qui a écrit pas mal de bouquins, fondateur d'Express en France, et si je vous en parle, c'est parce qu'il a fait un bouquin que quelques étudiants ont lu. Le bouquin est sorti, première édition, en 84, je crois. Le défi mondial. Et dans ce bouquin, qui est un bouquin d'essayiste de 84, vous avez pratiquement toutes les problématiques qui sont là, et dans une perspective, on va dire, pays riche, pays pauvre. Je ne peux pas ne pas donner la thèse de Savant-Chabert tellement c'est fort, et encore aujourd'hui, quand je vais vous la donner, vous allez voir. Son idée, c'était la suivante, c'était de dire, quand on fait des transferts de technologie, nous, pays riches, aux pays pauvres, alors je dis pauvres, hein, émergents, en voie de développement, machin, bon, je simplifie. Quand on leur fait des transferts de technologie, qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne toujours nos vieilles technologies. Pour des tas de raisons. On leur file nos vieilles technologies. On leur vend déjà, quand même, souvent. On leur vend parfois, on leur prête de l'argent pour que... C'est compliqué. Enfin bref, au bout d'un certain temps, ils ont... nos vieilles technos. Ce que disait Savant-Chabert dans ce bouquin, qui était absolument extraordinaire, c'était de dire, c'est une réflexion sur les nouvelles technologies, c'est de dire qu'avec les nouvelles technologies, on ne peut plus tenir ce raisonnement tellement les cycles de produits vont vite. Quand on leur vendait une fonderie de sidérurgie, effectivement, on pouvait vendre une vieille parce que, en informatique, ce n'est pas possible. Donc la proposition qu'il faisait, c'était de donner à ces pays, de vendre au prix coûteux, nos meilleures technologies. Pourquoi ? Parce qu'il disait, ces pays-là, ils veulent avoir un mode de vie proche d'une autre. On pourrait critiquer la chose, mais en tout cas, c'est une réalité. Ils veulent avoir un mode de vie proche d'une autre. Problème, c'est qu'ils ne sont pas solvables. Regardez, l'iPhone en Chine. L'iPhone en Chine va sûrement marcher, parce que seuls les Chinois hyper riches vont pouvoir s'en payer un. Les autres, ils vont regarder passer en disant, comme vous regardez passer une râle, ça va m'étonner que ça vous intéresse. Bon. OK ? Donc, ce que disait Savant Schreiber, c'était donnons-leur notre technologie pour qu'ils deviennent nos concurrents, qu'ils produisent. Parce que s'ils produisent, ils vont devenir solvables, ils vont devenir riches et solvables. Et on ne se sortira du développement que si les pays pauvres deviennent solvables. Mais pour ça, il faudra que nous passions, hélas, une dure génération, disait-il, très dur, à encaisser le choc de notre perte de compétitivité par rapport à ces pays concurrents. Ça ne s'est pas passé comme il l'a prévu, parce qu'on ne leur a pas donné. Ils sont débrouillés tout seuls, ils en ont une partie, et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Comment ces pays commencent à avoir du pouvoir d'achat. Ce qui veut dire que la crise dans laquelle on est, c'était optimiste sur le long terme et pessimiste sur le court terme. Je veux conclure là-dessus en disant que ça peut être très pessimiste sur du court terme, court moyen terme, et optimiste sur du long terme. Mais quand je dis non, c'est 30 ans, hein. D'accord, c'est pas long, 5 ans. Hein.
C'est une génération au moins. Bon. Alors, ça, je ne résiste pas au plaisir de vous faire cette petite chaîne logique que j'avais mise au point il y a quelques années pour dire l'informatique et les nouvelles techno, ça traite de l'information. C'est vrai ? L'information, ça confine à la culture. Ouais. La culture, ça pousse à l'émancipation des peuples, des individus et des peuples. Ouais. L'émancipation, ça développe la démocratie, parce que plus on est émancipé, cultivé, plus on est dans la démocratie. On ne peut pas se laisser imposer un système totalitaire qui nous prend pour des imbéciles, bien sûr. Donc la conclusion, c'est que l'informatique, eh bien, ça conduit à la démocratie. Et que la démocratie, c'est le bonheur, donc l'informatique conduit au bonheur. Je vous ai résumé de manière humoristique des dizaines d'ouvrages qui ont toujours tourné autour de ça. Et le dilemme des NT, vous l'avez sous les yeux. C'est que toujours on nous vend que derrière c'est de l'information, rappelez-vous le pouvoir, que cette information, là j'ai mis culture, on pourrait mettre pouvoir si je prenais la version Minc. Que cette culture nous émancipe, que cette émancipation, c'est la démocratie, que donc, ça nous pousse au bonheur. N'est-ce pas le discours marketing, toujours le même depuis des décennies ? C'est pas la promesse qu'on fait à chaque fois ? Pour que chez Apple, hein, je peux critiquer comme les autres sur le mur, hein, bien sûr. Il y a une approche, une vision messianique des NT. C'est le messie, les NT. Hein, ça nous promet le bonheur sur Terre pour tout de suite. Si vous avez votre nouvel appareil, vous aurez le bonheur sur Terre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas, comme on le dit souvent, parmi ceux qui dénoncent ça, parce qu'ils disent quoi ? Ils disent que les gens sont des individus, et que les gens sont des imbéciles, et qu'on les trompe et on les aliène. C'est pas ça. C'est qu'on a quand même un argumentaire qui a une trace de cohérence. Quand je le montre comme ça, il est ridicule. J'ai fait exprès de le ridiculiser. Mais il n'est pas totalement dénué de fondement. C'est dans l'approximation qu'il sous-tend qu'il y a effectivement une exagération large, pour ne pas dire énorme, de la relation entre les nouvelles techno et la démocratie, la liberté ou le bonheur. Bon, ça je voulais quand même vous le dire parce que ça fait partie des trucs rigolos. Bon, alors je laisse tomber cette affaire-là. Bon, ça, je le laisse tomber. Vous le verrez si ça vous amuse. C'est la partie un peu historique. Hein. Bon, c'est pas pertinent par rapport à ce cours. Vous pourrez le regarder. C'est de voir comment est-ce qu'on est passé la télématique au net. C'était juste pour rétablir deux, trois idées qui sont un peu désagréables quand on a tendance à dire... Quand j'entends des gens dire aujourd'hui que la télématique a été un truc totalement nul en France, c'est vraiment les gens pas très bien informés ou pas très honnêtes qui disent ça. Hein, donc la télématique a été
je vous l'avais expliqué la dernière fois, un moment de la pensée française où il était question quand même de faire quelque chose et tous les pays ne l'ont pas fait. On peut le critiquer, j'ai moi-même critiqué d'ailleurs. J'ai donné les grandes options la semaine dernière, vous rappelez ? Rappelez-moi d'ailleurs quel était le choix. Quel a toujours été le choix du gouvernement français, gauche-droite là-dessus. C'était d'assurer le principe d'égalité par rapport aux technos et de subventionner les acheteurs. J'avais donné, bien sûr, le Minitel, mais j'avais aussi donné l'exemple du CECA, vous vous rappelez ? On s'est cassé la tête pour faire un système qui permettait à la personne qui n'avait pas assez de fric pour se payer sa télé couleur de quand même voir le programme. Parce que sinon, on était dans l'inégalité. Nous sommes en France très sensibles à ça aujourd'hui. On l'est, vous le savez, mais ça fait quelques années qu'on l'est. Donc, vous avez du détail sur cette affaire-là que je ne vais pas vous commenter parce qu'on n'en a pas le temps. Et puis, bon, voilà. Les interrogations qui perdurent, on le retrouve un petit peu. C'est une autre manière de voir ça. Rappelez-vous, le thème de la fracture numérique. On nous a ressorti le coup à l'avant-dernière présidentielle de la fracture numérique sur les infos riches et les infos pauvres. Et qu'il fallait du haut débit partout. Vous voyez comme ça s'actualise bien ces trucs. Il faut du haut débit. Regardez encore aujourd'hui, on va mettre plein de fric dans un plan haut débit et tout et tout. Pourquoi faire le haut débit ? Hein ? D'accord ? Je ne fais pas un dessin ? Parce que c'est quand même embêtant d'avoir du streaming qui ne marche pas bien. Quand même, c'est tellement mieux quand on a du très haut débit avec du streaming qui fonctionne comme si on avait le DVD sur son ordi. Ça serait mieux, non ? Ou un téléchargement, si vous voulez le garder sur votre ordi. Si ça se télécharge en 2 minutes, c'est quand même mieux que 2 heures ou 3 jours. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on fait de créatif avec le haut débit ? Moi, je veux bien que les gens qui sont dans la conception d'Airbus aient besoin du haut débit pour se passer des fichiers très lourds, oui. Dans la recherche, oui, il faut du haut débit. Mais à part les chercheurs, qui a besoin du haut débit ? Qui ose dire ça à la population ? Vous voyez un politique en train de vous dire « Mais vous n'avez pas besoin de haut débit, donc on ne va pas mettre du fric public pour vous amener le haut débit chez vous. » Si je me présente sur une élection en disant ça, je ne pense pas que j'aurai beaucoup de voix. Pourtant, c'est la vérité, non ? Quoi sert le haut débit ? Le piratage, pour le dire comme ça. Bon, donc, ces interrogations, je ne les traite pas. Les oublis, c'est pareil. Donc, progrès immense en qualité et en quantité. Les courriers électroniques, les tchats, la casée. L'ubiquité. Oh oui. Le thème de l'ubiquité, je ne vous l'ai pas dit celui-là. Si ? L'ubiquité, Cazeneuve. C'est le premier sociologue français qui s'est occupé de ces nouvelles technologies. Il s'appelait, il est mort, Jean Cazeneuve, avec un Z. Et c'est Cazeneuve qui est l'auteur de ce concept d'ubiquité. Ouais, il le faisait d'ailleurs pas par rapport à l'Internet, qui n'existait pas de son temps, il le faisait par rapport à la radio et à la télé. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois à causer d'un poste de radio et à causer sur la télé. Ce qui va démultiplier les présences. Bon, pourtant le citer, parce qu'il y a si peu de sociologues qui s'intéressent à ça en France, que je peux bien citer Cazeneuve, que je n'ai pas cité d'ailleurs dans mon panorama des chercheurs, parce que c'est un peu vieux. Hein, c'est un truc un peu ancien, Cazeneuve, mais autant le dire quand même. Bon. Peut-être que je sabote ce que j'avais préparé, parce que comme je veux qu'on avance. Bon, il y a un ou deux trucs que je voulais vous dire quand même. Voilà. Possibilité d'entraide mondiale. Solitaire, solidaire. Voyez le poids, on ne peut pas l'oublier, voyez le poids DNT dans l'aide au mouvement de démocratisation, on va dire. D'accord ? Je ne vous fais pas un dessin. Sitôt qu'il y a une révolution dans un pays, aujourd'hui ça commence par la maîtrise du net. Et regardez comment certains pays font tout pour que justement le net soit totalement contrôlé et que les informations ne puissent pas sortir. Hein ? Donc c'est un enjeu. Souveraineté nationale dont on parlait tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Antidote aux effets négatifs des médias. Et là, le média lunette offre une alternative à la télévision. En tant que média d'imposition, média d'identification, est-ce que vous le faites ? Je ne sais pas, ça dépend de vos pratiques, mais vous pouvez toujours, par le net, trouver une sorte d'antidote à l'omniprésence télévisuelle. Parce qu'il y a une interactivité permanente, parce qu'il y a une intelligence collective, etc. Ça fait partie quand même des choses qu'on ne peut pas ne pas citer. Hein, culture mosaïque, ça, pour vous, c'est un régal. Ça vous parle tout de suite. Hein, c'est pourquoi je ne l'ai même pas cité. Entraînement des réseaux sémantiques, bon, ouais, peut-être. Très bien, je ne vais pas tout vous dire là-dessus. Accélération de démocratie directe et participative, responsabilisation des acteurs. Démocratie directe et participative. Regardez le site extraordinaire qu'avait créé Ségolène Royal à la présidentielle précédente, en 2007, qui s'appelait Désert d'avenir, qui était un site où elle appelait tout le monde, enfin ce qu'il voulait, lui faire des propositions. J'ai failli faire un article là-dessus, puis j'en avais déjà un autre à faire sur les tweets, et c'est bon, c'est mon truc, mais bon. C'était passionnant, parce qu'il y a eu des contributions extraordinaires sur ce site. Le problème, c'est quoi faire de cette masse d'informations ? Parce que ça allait depuis des gens, vous savez, qui mettaient un message pour dire bon, bah, je suis dans la panade, vous ne pouvez pas me mettre un service d'aide sociale à côté, bon, d'accord, ça va bien. Et puis d'autres qui, au contraire, mettaient 5 pages pour vous proposer des tas de réformes de tout. Du droit, de l'éducation, de la médecine, des questions sur l'urbanisme et compagnie. C'était d'une richesse extraordinaire. Donc, Ségolène Royal, en tant que candidate, avait déclenché quelque chose de très fort et de très puissant, et étant exactement sur la démocratie directe et participative. C'était très fort. Ouais ? Non, je ne sais pas ce que vous avez. Ah, d'accord, bon. Je ne sais pas si c'est Ségolène Royal. Encore une fois, on n'est pas là. Hein. Quand je parle de Ségolène Royal, vous avez vu, je parle de Sarkozy à certains moments, on n'est pas dans le monde politique, ça veut dire. J'en ai rien et c'est parfaitement normal. Je ne suis jamais dans le monde politique quand je parle de politique ici, jamais. Et en plus, son site était vraiment très passionnant. Alors, la critique qu'il faut faire, hélas, c'est que ce site, bah, il n'a jamais rien donné, parce qu'elle ne pouvait pas, matériellement, traiter les milliers et les milliers de témoignages que des milliers de gens avaient envoyés. Ce qui fait que la démocratie participative s'est heurtée, ça il faut le dire, à deux écueils. Le premier, c'est tout simplement le volume. Comment se dépêtrer d'autant de textes de propositions de toute nature, ça renvoie à ce qu'on a dit sur le contenu informationnel avec Escarpi, ça d'ailleurs, parce que là, pour une fois, il y avait vraiment du contenu passionnant. Vraiment, il y avait des choses concrètes ou générales. Premier écueil, le volume, tout simplement. Comment traiter des volumes d'informations aussi importants, comment essayer de synthétiser ça, comment trouver des axes. Ils ont essayé, hein, mais c'était absolument pas possible. Premier truc. Deuxième chose, c'est une question politique. La démocratie participative est-elle de nature à remettre en cause la démocratie élective ou délégative? Vous y êtes? Non, il est tard, vous commencez à fatiguer, j'ai bien compris. Donc vous envoyez des signes aimables et gentils que j'ai captés depuis un certain temps. Peut-être sûrement pas avoir lu, mais bon, quand même. Non, mais ça, c'est un vrai truc. Est-ce qu'au fond, un collectif peut décider à la place des politiques élus? C'est un vrai débat. On ne va pas engager là du tout, mais c'est un vrai débat et c'est une question passionnante que les nouvelles techno promettent. Ouais. Bon. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très marrant sur ce thème-là d'un roman de science-fiction. Je suis désolé, je suis plus dans la science-fiction que dans... C'est un auteur qui s'appelle Stapledon, c'est qui? Et le roman s'appelle Créateur d'étoiles. C'est une réflexion philosophique sur la gouvernance. Pourquoi je cite dans ce cours? Réflexion philosophique sur la gouvernance. D'ailleurs, c'est marrant, c'est pas du tout. Alors, le roman, il y a toute la partie, c'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir voyager dans les étoiles, créateur d'étoiles, d'aller voir ce qui se passe, en remontant très loin dans le temps, en allant à des vitesses qui sont au-delà de la vitesse de la lumière. Voilà. Et donc, ça c'est le prétexte. Et c'est ensuite de décrire des modes de fonctionnement de société. Donc il va vivre un moment dans une société, il est invisible, une sorte d'ectoplasme, il vit dans une société sur une planète quelconque, il voit comment les choses se passent, puis il passe un petit moment, parfois il agit, qui s'en va, il va voir. Voilà. Et alors, il y a une réflexion sur quelle est la bonne gouvernance. Tout y passe. La féodalité, le pouvoir absolu, la tyrannie sanglante, la tyrannie douce, tout. Et à un moment, il tombe sur une planète étrange. Dans la planète en question, ils prennent des éléments observés ailleurs, mais ils ont inventé quelque chose de tellement particulier qu'ils se demandent, les voyageurs, là, si c'est pas ça, au fond, la clé de la bonne gouvernance. Et qu'est-ce que ça serait que la clé de cette bonne gouvernance? Alors déjà, c'est de dire que le problème de la démocratie, c'est la durée. Et c'est des gens qui ne peuvent pas engager des réformes. Vous ce que disait Churchill, hein, la démocratie, c'est le cœur de tous les systèmes, à l'exception de tous les autres. Et en particulier, quand vous avez engagé une réforme, ben, c'est une élection, vous êtes viré, au revoir. Donc il dit finalement, ce qui est bien, c'est le dictateur. Parce que le dictateur, il va pouvoir faire des réformes. Il n'aura pas de crainte d'être élu, il ne sera pas dans la démagogie qui accompagne la démocratie. Bon. Donc c'est le dictateur. Oui, mais l'inconvénient, le dictateur, on l'a expérimenté par ailleurs, c'est généralement un fou sanguinaire qui vient là par des coups d'État, par la violence, et qui, etc. Bon, donc, laisser la dictature, c'est pas possible non plus. Question, comment trouver une société dans laquelle il y ait un dictateur, qui a les pouvoirs d'un dictateur, mais qui ne vienne pas au pouvoir comme un dictateur? Quel est le plus juste de tous les systèmes? Ben, c'est le tirage au sort. C'est-à-dire que toute la population, adulte, hein, bien sûr, peut faire l'objet d'un tirage au sort. Et quand vous êtes désigné par tirage au sort, vous êtes le dictateur. Le système vous désigne comme dictateur. Bon. Vous pouvez refuser. Très bien. Mais là, il y a un deuxième écueil. Si vous êtes nommé comme dictateur, qu'est-ce qui va vous empêcher de faire des bêtises? Parce que vous allez frapper la grosse tête. Vous voyez, c'est super bien fait, vous y avez déjà pensé? Oui, non, mais non. Ah, puis je vais l'enfant avec toi. Bon, alors là, le remède de Stapledon qu'il a inventé, c'est grandiose. Quand vous êtes dictateur, vous êtes obligé de subir une petite opération. On vous implante à la base du crâne une petite prothèse. Vous ne savez pas ce que c'est. Ben, on peut s'en douter. Et puis vous faites votre boulot de dictateur, vous avez tous les pouvoirs. Les citoyens, eux, quand ils ne sont pas contents, alors c'est un système avec l'électronique, hein, ils n'ont qu'à dire je ne suis pas content d'une telle ou telle décision. Je vous laisse l'imagination. Arrivé à un certain ratio de gens mécontents, la petite prothèse en fait c'est une petite bombe. La petite bombe vous explose, vous êtes mort. Et on prend un nouveau dictateur. Marrant, non? Ça fait réfléchir, ça. Ouais. Vous avez tous les pouvoirs, mais comme vous en faites trop, ça va prendre. Bon, alors, je vous citais ça par rapport à ça, c'est démocratie directe et participative. Le net ne va pas jusque-là, mais le net, regardez déjà comment des communautés commencent à s'organiser pour trouver des leaders. Parce que si on observe les choses les plus récentes sur le net aujourd'hui, c'est les communautés, alors on n'est pas sur le web 2 machin, hein. On est sur des communautés qui cherchent à s'organiser pour trouver des leaders. Alors on a commencé par le business, j'ai eu un très bon mémoire de Emma l'an dernier là-dessus, sur les fonds volontaires. Vous voyez un peu ça? Vous repérez un chanteur, un chanteur sur YouTube ou Dailymotion. Vous voulez l'aider à faire un disque, il n'y a pas de fric. Vous allez payer à l'avance pour qu'il fasse son disque. Vous connaissez même le nom, je ne me rappelle plus du nom de la France. Donc ça a commencé par ça, et il y a eu des gens qui ont collecté des centaines de milliers de dollars et d'euros maintenant, hein, c'est pas rien. Et on continue maintenant sur des mouvements de leaders. Je considère que telle personne peut être un leader. Vous voyez comment le net est en train déjà d'essayer d'inventer un nouveau rapport de gouvernance, radicalement nouveau, dont on ne sait absolument pas ce qu'il pourrait être, basé sur quoi? Bah, basé sur les relations qu'on a pu nouer sur le net, et basé sur une certaine compétence prêtée à certaines personnes.
Voilà, bon, donc ça se terminait sur la créativité, ça c'était tout ce qu'on pouvait dire, nouveau circuit. La question restée ouverte, eh ben, c'était ce que je voulais dire, et c'est là-dessus que pour vous remercier de votre attention, je vous libère maintenant, parce que ça fait peut-être un petit peu beaucoup, on s'arrête. De toute façon, j'ai à peu près fini ce que je voulais dire, la prochaine fois, ce sera plus concret. On abordera ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire les degrés d'interactivité, évaluer, et des trucs plus faciles. Mais il me semble qu'il faut cette réflexion-là quand même. Enfin, il me semble, ouais. Je suis pas sûr.